À Canalem, on aime l'été. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Say en studio avec
Emmanuel Robitaille.
Nous sommes le mardi, même l'été aujourd'hui. L'univers et le cosmos, beaucoup de découvertes, mais plus de questions que de réponses. Et puis, on en parle moins, on n'en meurt plus, mais le VIH n'est pas mort, lui. Et la maison plein cœur ne laisse pas tomber ceux qui vivent avec.
Les Benoît sont de la partie encore aujourd'hui. Benoît Raux poursuit la visite guidée de Victoriaville, la ville la plus accessible à tous. Et Benoît Racette y va d'une chronique sur l'identité de genre et l'éthique médiatique.
Chronique culturelle de Maxime Despomerleaux pour nous faire prendre l'air.
Et chronique littéraire de livres à se mettre plein les oreilles les jours d'orage. Bienvenue à Aime l'été.
Une bille, une boule, un ballon qui tourne en rond.
Oui, il était comme ça, Michel Jonas. Il a toujours été très, très porté sur l'univers. La preuve, cette chanson-là, Univers l'Uni, oh, qui ne date pas d'hier. La preuve, c'est que ma petite camarade Emmanuelle Robitaille ne la connaît même pas.
Et tu m'as donné une seconde référence de ce chanteur que je ne connaissais pas plus.
Non, on allait au bord de la mer.
Non.
Non? Bon.
Ben,
tant pis.
Non, mais on ne peut pas tout savoir.
Non, mais tant pis.
Il faut laisser place
grave,
aux nouvelles découvertes.
Mais j'ai choisi ça, tu sais pourquoi?
Ben parce que je vous introduis, chers auditeurs, toi Clotilde.
Tu fais peur. Qu'est-ce que tu me fais
peur? Cette découverte. Cette découverte de l'univers qui, comme tu l'as si bien dit en introduction, nous apporte plus de questions que de réponses. Mais quand même, vous allez voir qu'il y a des découvertes fascinantes qui ont été faites dans les dernières semaines, les derniers mois concernant notre infini univers. Tout d'abord, on vient de découvrir 12 nouvelles lunes autour de Jupiter. C'est à l'équipe de Scott Shepard, un astronome du Carnegie Institution for Science à Washington, D.C., qu'on doit cette découverte-là. Et comme toute bonne découverte, ce fut nécessairement par accident.
Parce qu'on découvre tout ce qui est le fun par accident.
C'est-à-dire, il a trouvé ça comment, le bonhomme?
Bien, on s'en allait chercher encore plus loin. Neptune.
Je m'en allais aux framboises et aux fraises.
Non, non, on s'en allait juste un petit peu plus loin. C'est-à-dire Neptune et Pluton, qui a soulevé beaucoup de questionnements et beaucoup d'explorations dans les dernières années. Mais en passant par Jupiter avec une nouvelle caméra sensible à la matière noire, grosse comme une petite voiture, ils se sont dit « Hey, pourquoi pas regarder les environs tant qu'à passer dans le voisinage? » C'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils se sont dit « On va prendre les plus vieilles photos captées par la NASA d'il y a plusieurs années. » Et on va juxtaposer nos nouvelles photos avec notre nouvelle caméra, puis on va être à même de voir s'il y a quelque chose de nouveau et les chances seront grandes que ce soit de nouveaux objets qui n'auront jamais été vus ou identifiés avant aujourd'hui. Et ça a été le cas de 12 nouveaux satellites naturels qui correspondent à la trajectoire d'une lune. La trajectoire d'une lune, c'est un orbite qui est prévisible, ce qui nous mène à 79 satellites naturels autour de Jupiter connu à ce jour. Et là, j'entends ta question, Clotilde.
Mon Dieu!
Quelle est l'implication pour nous sur Terre?
Ben oui! Ça va faire quoi dans nos vies?
Ça va
changer quoi?
Ben, non seulement ça, c'est ludique. Et aussi, et pour certaines personnes qui, pas comme nous, sont très, très, très à l'affût de ce qui se passe dans l'univers, ça va contribuer, bien sûr, à la compréhension encore très partielle de quand et comment la Terre a été formée, de combien de composantes volatiles arrivent d'ailleurs dans le système solaire, comment on se procure l'eau. Et restez à l'écoute, je vais vous parler d'une découverte absolument fascinante plus tard en saison à M l'été, de nouvelles découvertes concernant l'eau sur Terre, et je ne vous en dis pas plus, vous allez devoir être à l'écoute tous les jours. Et comment également s'est développée l'atmosphère chez nous. Et ça serait assez simple si on en restait là, non seulement on a découvert 12 lunes nouvelles autour de Jupiter, mais également on soutient que deux lunes de deux planètes du système solaire pourraient contenir de la vie extraterrestre. Selon les chercheurs, on parle de la lune Europa, une des lunes galiléennes de Jupiter, et sur Titan, une des lunes de Saturne. On parle d'eau liquide. On sait que c'est une des raisons de base pourquoi on peut soupçonner de la vie ailleurs. J'ai lu ce qui en était et je me dis, je trouve que la science par rapport à ça est encore très basée sur les connaissances actuelles, ce qu'on connaît de la vie ici. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment de ce qui est nécessaire à un extraterrestre à vivre? Est-ce que c'est vraiment de l'eau comme nous? On le sait pas, mais je vous tiendrai au courant. Actuellement, c'est les présuppositions, les suppositions des chercheurs.
C'est le cannabis.
ou autre, chère Clotilde. L'Inde a découvert, quant à elle, une nouvelle planète où une année ne dure que 19,5 jours. Ce serait une exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui orbite autour d'une étoile autre que le Soleil, qui se situe à seulement 600 années-lumière de chez nous, c'est à côté, et c'est 27 fois plus grosse que la Terre. Okay. Elle orbite 7 fois plus près de son étoile que la Terre orbite autour de son Soleil, ce qui explique la durée de 19,5 jours pour une année, beaucoup plus rapide. Et cette proximité explique aussi la chaleur à sa surface qui est de
Bon, je sais pas.
Non, c'est parce que j'étais en train... Non, parce que moi, j'étais en train de me dire... T'imagines Noël tous les 19 jours. Oh là 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 là!
C'est 600 degrés Celsius qu'il fait sur cette nouvelle planète. Et en autre conclusion... Pardon de cette trouvaille.
Oui.
C'est que ce qu'on sait, c'est que l'Inde a maintenant un équipement d'exploration de l'espace qui est suffisamment sophistiqué pour contribuer à sa découverte. Je trouve ça absolument fun parce qu'on ne sera jamais assez d'individus, de pays, d'organisations.
D'individus.
Oh mon Dieu.
Ben non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi,
J'ai tout le temps pour une autre, parce que j'étais en feu, moi, cette semaine, vous le savez.
Elle est à 600 degrés, elle est une petite. Allez.
Le plus petit vaisseau conçu pourrait bientôt rejoindre l'étoile la plus proche. C'est Proxima Centauri, la destination qui est visée, par ce nano-vaisseau qui voyage à une vitesse équivalente à 20 % de la vitesse de la lumière, soit seulement 1 million de milles par heure. Proxima Centauri est en fait le système stellaire et planétaire voisin de notre système solaire. Et le nano-vaisseau veut peser pas plus de quelques grammes, incluant la caméra, le moteur et les systèmes de communication. Et c'est là, Proxima Centauri se situe à 4,26 années-lumière de nous. Et c'est là qu'on voit que le terme voisinage prend de l'expansion ces derniers temps.
Magnifique. Et c'est là aussi, moi, je suis toujours fascinée de voir ce que l'homme est capable de faire.
On s'en vient bien, hein? On s'améliore.
Et on attend toujours 17 heures aux urgences pour une connerie. Non, mais tu vois, c'est vrai pareil. Mais c'est pas fou comme questionnement. Comment se fait-il qu'on soit capable de faire des nano-machins avec un système de communication de... Voilà.
Je crois que parfois, c'est une question de choix.
Ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour, sida, sida, née. Elle est année d'amour. À mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour sidané. Oh sida, 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 danger, sida. Oh sida, sida, amour à mort. Oh sida, sida, assassin recherché. Aimer qui a mis l'amour à mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné. Oh, sida, sida, comme le furet, passez par ici, repassez par là. Oh, sida, sida, assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort, on rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'emmerde d'amour, sida, sida né, maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer, seul et sans amour, sida abandonné, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour. Sida, sida né, l'éternité d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida assassiné.
Oui, une chanson, elle le disait d'ailleurs en introduction qu'elle aurait préféré ne jamais avoir écrite Barbara. On a appris d'ailleurs après son décès qu'elle était séropositive. Et il y a un moment donné, donc elle fait toutes sortes de jeux de mots. Je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu là, le texte de ça, mais elle, entre autres, elle dit sida abandonné.
Et on est
sida, c'est ça, sidané, sida assassiné, etc. On était dans la grande époque, la pire époque, hein, dans les années 84-85, lorsque le sida faisait énormément de victimes. Aujourd'hui, on en est plus là. On a trouvé des traitements, mais il y a encore des gens qui vivent séropositifs et qui vivent bien. Séropositifs, relativement bien, c'est ce qu'on va peut-être demander, entre autres, à Dominique Houde. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique, vous êtes résident, vous êtes hébergé à la Maison Plein Cœur, dont nous parlerons aujourd'hui. Qu'est-ce que la Maison Plein Cœur?
La Maison Plein Cœur est une maison où on offre, on donne des services aux gens qui vivent avec le VIH. C'est différents services à différents niveaux.
Ouais.
Entre autres, moi, bon, je bénéficie de l'hébergement, mais je suis aussi usager du centre de jour. Il y a un centre de jour, une salle en bas, où on peut rencontrer des gens, discuter. Il y a beaucoup de services, entre autres l'accompagnement en voiture pour les gens qui ont de la difficulté ils ont des difficultés de mobilité.
De mobilité, oui.
Oui, c'est ça. Ensuite, il y a des massages aussi de relaxation.
Oui, ça, on va en parler tantôt avec l'autre personne que je voudrais tout de suite vous présenter. C'est Denis Villeneuve. Denis est bénévole depuis quelques années maintenant.
Ben, pour les massages, ça fait un an et demi.
Un an et demi.
Mais je connais la Maison Plein Cœur depuis... je pense, 94.
Depuis 94. Et vous allez, entre autres, aussi nous parler de cet espace qui s'appelle Zone Plus, que j'ai découvert par hasard en promenade. Mais avant, je voudrais revenir à vous, Dominique. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la réalité aujourd'hui, en 2019, d'une personne séropositive?
On peut la reprendre. On est en 2018. Là,
on est en 2018. Oui, c'est parce que tout augmente. Hein. Vous avez remarqué? Non, mais c'est comme
c'est
le prix du lait.
Non, mais c'est...
tout augmente, excusez-la. Non, mais parce que c'est une réalité dont on ne parle plus. C'est terrible,
c'est
là, mais depuis qu'on
n'en a plus aucune.
On ne meurt plus. Mm-hmm. C'est terrible.
Ouais.
On n'en parle plus. Ouais. Donc, c'est pourquoi une maison comme celle-ci est importante.
C'est bien que vous ayez fait le geste. Entre guillemets, on n'en meurt plus parce qu'on développe quand même, on a plus de propension à développer des cancers, des maladies, j'essaie de me souvenir.
Mais la maladie du foie, les poumons.
Les reins aussi parce que bon, les médicaments, c'est quand même difficile au niveau de... du métabolisme.
Oui.
Donc, c'est ça. Il y a des maladies qui se développent. Il y a vieillissement prématuré aussi. On estime environ une personne vivant avec le VIH va avoir à peu près... Son corps physiologique va avoir environ 10 ans de plus que son âge réel.
Ouais. OK.
Oui. Donc, c'est ça. Je ne me souviens plus la question.
C'est pas grave. Non, on faisait référence à la Maison Plein Cœur et on faisait référence, je me disais, aujourd'hui, alors qu'on en parle moins, comment vit-on avec la séropositivité?
Écoutez, juste pour vous dire, aujourd'hui, moi, c'est une première.
Mm-hmm. Oui.
Je suis en train de faire mon coming out public. En tant que séropositif.
C'est très touchant, Dominique.
Effectivement.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, malgré que on connaît bien la maladie, c'est pas tout le monde, en fait. C'est pas une majorité. Même, je dirais même que c'est même pas une majorité qui connaît. Ils savent que le VIH, le sida existe, le VIH existe, mais ils savent pas tellement de choses sur. Et la stigmatisation est encore présente, c'est encore très présent. Puis c'est ça. Donc, nous, comme le centre de jour, il y a aussi Zone Plus où je suis aussi bénévole et impliqué, responsable. Puis, c'est un endroit où, justement, l'isolement, on va briser l'isolement.
Oui. On va en parler avec Denis Villeneuve. Approchez-vous un petit peu, Denis. Donc, tu interviens quand tu veux, évidemment, Emmanuel. C'est un lieu au milieu des arbres, entre autres, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs. C'est au parc Campbell.
C'est bien ça, oui.
Ici, c'est dans le village, donc pas loin d'ici. Moi, je suis tombée là-dessus par hasard. Je dois préciser, au niveau de l'image, pour les auditeurs, c'est que quand j'ai vu ce lieu au milieu des arbres, j'ai surtout vu de la couleur. J'ai vu, c'était tellement coloré, j'ai vu des grands dessins, j'ai vu deux messieurs qui étaient en train de faire littéralement du coloriage. Alors évidemment, curieuse comme pas une, je me pointe là et je me dis, mais où suis-je? Que faites-vous? C'est là que j'ai appris qu'il s'agissait de cet endroit qui s'appelle Zone Plus.
Oui, puis c'est bien, vous êtes, l'hiver, les portes sont fermées. Donc, l'été, ce qui est merveilleux, c'est que là, on a les gens qui viennent. Puis, si je peux parler un petit peu de Zone Plus.
Bien sûr.
Ça se veut un lieu de création artistique, ouvert et puis sécuritaire, pour que les gens puissent venir développer leur créativité. Mais on met l'emphase sur le fait que c'est pas tout le monde qui a fait du dessin ou ci ou ça. Et puis, c'est aussi... ce qui est important, c'est l'échange entre les gens. Puis, des fois, en faisant une activité, c'est là qu'on va communiquer. Mm-hmm. Donc, si on veut juste communiquer, des fois, ça fonctionne pas. Mais si on est en train de faire du dessin ou quelque chose, des fois, les échanges se font naturellement.
Ah, oui,
donc,
oui.
Ce que je pourrais dire, c'est que, on a parlé d'isolement parce que, pour diverses raisons, les personnes vivant avec le VIH sont souvent retrouvées. Il y a encore des personnes rejetées par leur famille, par l'environnement, tout ça. Et puis, il y a la stigmatisation. Et puis, je pense que la stigmatisation, ça va dans les deux sens. Je vais essayer de m'expliquer.
Qu'est-ce que vous appelez la stigmatisation? Vous en avez déjà parlé, je pense, à nos auditeurs, peut-être.
Je dirais que même en 2018, avoir le VIH, c'est pas vrai que ça passe comme ça, puis qu'on tout le monde dise aujourd'hui il n'y a pas de problème, puis on accepte tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le parc, justement, quand les gens viennent, ils posent des questions, bien, on a la chance, d'une façon subtile, mais de passer le message, de dire moi, je ne vais pas toujours dire je suis Denis Villeneuve, puis je vis avec le VIH, mais je pense que le message passe à travers l'explication de Zone Plus, puis tout ça, donc...
C'est intéressant parce que quand on se rend dans Zone Plus, comme Clotilde l'a si bien dit, on y voit de la couleur. C'est comme si on mettait de la couleur, un peu de lumière, dans ce qui est dans la tête des gens. Quand on parle de stigmatisation, on parle de préjugés pas nécessairement positifs, d'accoler des étiquettes avec une image claire de ce qu'on pense que ce que c'est. Et c'est ça, c'est assez noir. Donc, c'est comme si on y mettait de la couleur, c'est comme si on voyait un autre pan d'une réalité qui n'est pas nécessairement que noire, lourde et négative. Les gens, j'ai l'impression, et vous me direz si ça résonne en vous, cette stigmatisation-là, et quand vous dites, Dominique, pour votre part, que les gens savent, mais savent pas tant, et c'est pas une majorité de gens qui sont au courant de cette problématique-là, de cette affectation-là et du style de vie qui vient avec, j'ai l'impression que c'est un peu par peur. Est-ce que les gens ont encore peur, vous pensez, d'en savoir plus?
Je pense que oui. Sais pas, c'est dur à dire, mais en tout cas, à Zone Plus, c'est intéressant de pouvoir...
C'est comme si ça brisait ça. C'est comme si ça mettait de la couleur. Et je me questionne. Parce que la créativité et l'art-thérapie, on le voit dans plein d'établissements pour les jeunes, les moins jeunes, déficients intellectuels, la danse. En quoi, pour la séropositivité, VIH-SIDA, la créativité aide? Dominique, toi, tu l'expérimentes, et j'ai vu ce que tu as fait. Tu nous as présenté une de tes toiles qui est absolument magnifique, là.
Merci. En fait, je pense que c'est un peu... Ça m'a donné, premièrement, confiance en moi. Et aussi, c'est ce que ça m'a permis aussi de tisser des liens avec des personnes. Dans d'autres circonstances, ça se serait probablement pas passé. Ça me permet de connaître d'autres personnes aussi, d'autres réalités, là, mm-hmm. parce que bon, on ne vit pas tous, chaque mm-hmm. personne ne vit pas les mêmes réalités. Et ça... Puis je vous dirais que grâce à ça, je pense que c'est grâce à ça que mon coming out se fait maintenant, aujourd'hui. C'est que parce que justement, je me suis... j'ai parlé un peu de moi quand il y a des gens qui posent des questions, quand c'est... quand les passants passent mm-hmm. et ils posent des questions, ben, je leur, à un moment donné, j'ai mentionné qu'au début, je ne voulais pas trop. Puis finalement, mm-hmm. j'ai mentionné que bon, je suis séropositif. Puis, donc, puis ça me donne confiance en moi aussi. Oui. Ça m'a...
Vous avez conscience, là, Dominique, que votre vie va... moralement va changer, je pense.
Exactement.
À partir de la seconde,
je m'en allais vers l'estime de moi. Je m'en allais vers l'estime de moi parce que justement, en faisant des choses, aussi en prenant des engagements envers Zone Plus, parce que bon, là, je ne veux pas parler nécessairement juste de Zone Plus. Mais... Par contre, c'est comme en train de me faire revivre, renaître.
Oui. C'est beaucoup.
Je ne sais pas si je m'exprime
très, très bien. Vous vous exprimez très clairement, Dominique. Okay. Dites-moi, s'il y a en ce moment des gens qui nous écoutent,
oui.
qui sont encore isolés, parce que je suis convaincue qu'il y a encore des gens qui sont porteurs du virus et qui restent isolés,
très seuls.
Ils peuvent rejoindre, évidemment, ils peuvent contacter les gens de la Maison Plein Cœur. Il va y avoir un soutien pour eux.
Oui.
On fait comment? Il y a un site internet, évidemment, Denis.
Il y a une
Denis,
page Facebook aussi.
D'accord, il y a une page Facebook.
Oui.
Donc, si je fais Maison Plein Cœur sur Facebook, je tombe sur vous.
Oui.
Et sur tous les services, Denis Villeneuve, que vous offrez. Vous me parliez des massages.
Oui.
Ça doit être hyper important de se faire masser, de se faire toucher. Hein?
C'est des choses qu'on oublie et qu'on met de côté,
absolument.
Mais qui sont absolument importantes. Si vous voulez avoir plus, si vous voulez avoir des services ou en savoir plus sur la Maison Plein Cœur, rendez-vous au www.maisonpleincoeur.org. On peut également vous téléphoner au 514-597-0553, poste 223.
Et il y a aussi la page Facebook.
Merci beaucoup, Dominique Houde,
pour ce
témoignage fantastique.
Merci,
Denis Villeneuve, pour tout ce que vous faites en tant que bénévole à la Maison Plein Cœur. Merci à vous deux.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Vous écoutez effectivement toujours Aime l'été. Nous sommes également toujours mardi le 24 juillet 2018. Clotilde Seuil et Emmanuel Robitaille avec vous. Et en deuxième partie d'émission, les Benoît sont de la partie. Benoît Raux poursuit la visite guidée de Victoriaville, la ville la plus accessible à tous. Et Benoît Racette y va d'une chronique sur l'identité de genre et l'éthique médiatique.
Where am I going wrong? On vient d'entendre la pièce I Don't Know, un des plus récents extraits de Sir Paul McCartney de son album qui va paraître en septembre, album intitulé Egypt Station.
Merci beaucoup, mon ami Jean-Sébastien, qui nous fait toutes ces belles présentations, des annonces de chansons, qui nous en apprend toujours. Tout d'un coup, je viens d'avoir un flash, j'ai repensé au film. Avais-tu vu ça, Philadelphia?
Avec Tom Hanks.
Et cette musique fantastique signée Bruce Springsteen. Ah oui, non, mais bon, c'est pas grave.
On a fait une milk aussi dans ce genre-là avec Sean Penn.
Oui, c'est ça. Tout d'un coup, on a des choses comme qui nous remontent. Benoît Rowe, bonjour, mon petit Benoît.
Bonjour Clotilde, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, comment allez-vous?
Bien. On vous a permis, mon petit Benoît, de ne pas vous déplacer. On sait que nous avons en ce moment une météo un petit peu imprévisible. On se dit, si on peut lui éviter de faire la route là, entre Victo et Montréal, ça nous fera toujours plaisir. Victoriaville, c'est normal.
Victoriaville, oui.
C'est très normal.
Merci, c'est très gentil. Je l'apprécie grandement. Alors, je vais tenter de vous faire un petit portrait comme d'habitude, mais cette fois-ci, de l'aspect récréatif de la ville de Victoriaville.
Donc là, on va se faire du fun à Victoriaville tout en restant accessible, c'est ce qu'on comprend.
Tout en restant accessible.
Parfait!
Bon, bien sûr, je vous avouerai que si on fait du vélo BMX en montagne, c'est plus compliqué. Mais la majorité des choses dont je vous parle aujourd'hui sont directement accessibles et plus que ça, on offre dans certains cas soit des vélos adaptés, soit même des kayaks adaptés pour personnes à mobilité réduite. Alors donc, je prends le divertissement au sens large. Donc, bien sûr, des activités physiques sportives, mais aussi des événements culturels, musicaux, tout ce que peut offrir la montagne, par exemple, la route verte, et puis, bien sûr, ce qui nous caractérise, les parcs. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais, ben, il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Victoriaville.
Il y en a combien de parcs?
Il y en a 38.
38?
C'est strictement sur le territoire de la ville de Victoriaville. Et quand, par exemple, vous vous promenez sur une des pistes cyclables, peu importe le moyen de transport, c'est-à-dire vélo à pied ou avec un fauteuil électrique, peu importe le motorisé, j'entends, vous arrivez toujours à un moment donné où il se trouve un parc. Hein? Mmh. Alors, soit que c'est un parc central, comme celui autour de la Vélogare de Victoriaville, en plein centre-ville.
La Vélogare.
La Vélogare. Ah, ça, c'est une belle histoire, hein?
Racontez-nous la Vélogare.
Vous savez bien que j'allais le faire, hein?
Oui.
En plein centre-ville passait, et c'est comme ça que la ville de Victoriaville a été, j'ai envie de dire, créée, si vous voulez, c'est qu'il passait une ligne de chemin de fer qui s'appelait la ligne du Grand Tronc.
Ouais.
Et comme à peu près toutes les municipalités du même type, évidemment, le centre-ville était coupé en deux et cette voie ferrée passait. À un moment donné, le Grand Tronc a fermé boutique et a réacheminé ses voies ferrées, ou à tout le moins ses trains, via d'autres lignes. Et on s'est retrouvé avec un espace absolument incroyable qui passe au centre-ville. Et une fois que les rails et les pièces de bois ont été enlevées, ben, la ville a eu la brillante idée de transformer ça
en
piste cyclable, piste marchable, si je peux utiliser le terme aussi. Mais tout ça tournait autour d'une vieille gare que nous avions au centre-ville.
Okay.
Bon, elle était désuète. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reconstruit une nouvelle gare à peu près sur le site de l'ancienne. Et comme la piste cyclable, c'est un point d'arrêt pour la piste cyclable et c'est devenu aussi un lieu d'assistance touristique, ben on l'a appelé la Vélogare.
Voilà.
Alors, il y a moyen, par exemple, et ça, c'est un fait intéressant. Si vous venez passer quelques jours à Victoriaville, c'est possible pour vous de vous présenter à la Vélogare et obtenir le prêt gratuit pour une journée d'un vélo. Alors, vous pouvez vous promener toute la journée dans la région et puis à la fin de la journée, vous reportez le vélo, puis ça ne vous a rien coûté. Puis il y a des vélos qui sont adaptés. En fait, il y a une espèce de plateforme qui est ajoutée au vélo sur lequel le fauteuil roulant peut être monté. Mm-hmm. Et puis, bon, ben, on part en balade avec, avec notre compagne ou notre compagnon, parce que ben, vous savez qu'on a... On a pas mal de circuits cyclables. Là.
Oui.
Il y a près de 77 kilomètres de réseau.
Quand même.
Dans la ville et autour.
Est-ce que ça fait partie de la célèbre route verte?
Verte, oui, exactement. Bon. Alors, on, je pense qu'on se rend... en fait, c'est possible de se rendre jusqu'à Québec, puis jusqu'à Sherbrooke. Mais évidemment, la portion qui nous touche est essentiellement dans la région du centre du Québec. Là. Oui. Alors, ça compte quand même 77 kilomètres. Puis, il y a un réseau cyclable qui est propre à la ville, c'est-à-dire à l'intérieur des limites, où on trouve des pistes cyclables, des bandes cyclables, mm-hmm. mais aussi des chaussées désignées. Donc, on est sur la rue, on roule dans la rue, mais dans un corridor qui est essentiellement réservé. Ben, un peu comme... Finalement, on retrouve à Montréal. Hein?
Exactement. Voilà. Qu'est-ce que le réservoir Baudet à Victoriaville?
Le réservoir Baudet, c'est assez fascinant. Bon, d'abord, c'est un parc qui a été construit de toutes pièces autour d'un bassin qui servait à l'origine et qui sert encore en partie là, comme source d'eau potable, parce que une des usines de filtration est dans le secteur. Et bon, au fur et à mesure que la municipalité a acquis les terrains qui le bordaient, ben, on a développé les fonctions du réservoir et c'est devenu un des parcs les plus intéressants où aller. Bon, bien sûr, il y a les oies hein, qui viennent.
Oui.
Je pense en avoir parlé, vous en reparlerez sûrement parce que c'est d'intérêt. Mais il y a aussi et surtout, bon d'abord il y a une sacrée belle piste qui fait 5,2 kilomètres.
Ah oui.
On peut marcher, on peut rouler, on peut bon courir même, hein, parce que c'est un endroit pour faire de la course à pied.
Mmh.
Et il y a toujours ce magnifique réservoir. Et c'est là qui est intéressant, c'est que bon, on offre en location soit des canots, soit des kayaks, soit des pédalos. Et ben voilà, on a ajouté des kayaks.
Adapté.
Wow. Pour personnes à mobilité réduite. Et évidemment, ben, là-bas, on y trouve des tables à pique-nique qui sont adaptées, des toilettes, pavillons de service, etc. Alors, on peut facilement aller y passer une journée, pique-niquer, faire du sport, se promener. Puis tout ça est bon à 8 minutes du centre-ville.
Mais oui, exactement.
C'est ça qui est fascinant. Puisqu'on parle de réservoir Baudet...
Il vous reste, voilà, c'est ça, il vous reste une toute petite minute.
Ben, je voulais vous parler aussi de ce qu'on offre, par exemple, sur la montagne.
Oui.
La montagne, bien sûr, c'est un autre parc. Mais c'est il y a aussi de la bicyclette, il y a de la marche, il y a de la raquette l'hiver, il y a du ski de fond, etc. Et il y a ce que l'on appelle du géocaching. C'est extrêmement intéressant parce que c'est mondial, hein,
oui.
Il y a plus de 180 pays, et on géoréférence des petites boîtes qui contiennent un trésor. C'est une chasse au trésor, mais avec GPS. Et il y a 980 et quelques de ces caches dans la région de Victoriaville. Alors, les gens procèdent, bon, évidemment, il y a tout un processus, là, mais avec leur GPS, trouvent une cache.
Mm-hmm.
Il y a un petit livre là-dedans et ils écrivent, bon, oui, je l'ai trouvé, telle date, telle heure, ils le remettent dans tout ça et ils repartent à la recherche d'une autre cache. Oh, ça, c'est intéressant.
C'est,
puis, au-delà
super.
De ça, ben, une chose que je voulais vous souligner,
oui.
C'est on a une magnifique fête le 18 août qui s'en vient, c'est la fête de la diversité culturelle. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde.
Mais c'est ma
on
fête aussi, M. Rowe.
C'est
le 18 août. C'est une magnifique fête, vous avez raison.
Magnifique, hein? Alors, on célèbre cette journée-là, Victoriaville, notre diversité culturelle. Et c'est une occasion de... En fait, on tisse des liens avec des gens qui viennent de plusieurs pays différents. Il y a toujours une cérémonie civique où on accueille les nouvelles familles, etc. Alors, c'est très... Quand je vous dis que la ville est inclusive,
oui.
Ça va jusque-là aussi.
Exactement. Hein. Et je vous remercie d'ailleurs de nous l'avoir précisé. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'émission et qui se demandent « Mais pourquoi parler de Victo ?» Bien, c'est ça. C'est parce que c'est vraiment une ville inclusive. Et c'est une région à découvrir. C'est une région un peu délaissée par les touristes. Et nous, on a pensé que, justement, c'est parce qu'elle était délaissée qu'il fallait qu'on en parle. Grâce à Benoît Rowe. Merci, Benoît.
Ben, merci. Alors, à bientôt.
À bientôt.
Bye.
Et bonne fin de journée.
Bye.
suis venu te dire que tu peux changer.
On vient d'entendre Hubert Lenoir avec la chanson « Fille de personne 2 » de l'album Darlene. Hubert Lenoir qui fait beaucoup parler de lui ces temps-ci, qui est encensé par certains, qui est...
décrié par d'autres.
Je nommerais ceci ainsi. Ouais. Et c'est le cas également de toute l'identité de genre. Il est le représentant de cette polémique actuellement.
Oui.
Et Benoît Rassette, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans ta chronique sociopop.
Ah, quelque part, oui, c'est un bon lien. Merci, Emmanuel.
Ça me fait plaisir.
En fait, si vous permettez...
Il est où le chèque, là?
Ah, ben là, on n'en parle pas en ondes, là, c'est indécent. Non, mais de toute façon, la plus belle récompense, c'est d'avoir des musiques aussi charmantes puis des animatrices aussi pop que vous. Et donc...
Allez, on va ranger les violons.
Mais j'ai envie de faire popper aujourd'hui quelques mots. Crip, queer, trans, hein, ça pop. Et c'est en me référant, entre autres, à une recherche ou à un papier, une recherche qui a été proposée par Alexandre Barry, qui est assez connu là, sur la scène queer, je vous dirais, qui est un professeur. Il est maintenant professeur adjoint à l'École de services sociaux de l'Université d'Ottawa. C'est un spécialiste de la diversité, hein, faut le dire. Et il avait commis, entre autres, temporalité trans, deux points, identité de genre, temps transitoire et éthique médiatique.
Allez hop. Ah, c'est super simple.
C'est très simple.
C'est tellement simple qu'on ne va pas définir certains termes.
Non.
Entends-tu mon sarcasme?
On n'aura pas le temps.
Alors, parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans ce papier-là, Benoît, c'est qu'il y a quand même des liens hors normes, queers et handicapés. Mm-hmm. Pourquoi on parle des deux dans un même article?
Ça, c'est super intéressant parce que c'est pas le seul...
Ça m'a mélangé un petit peu.
Ben, il y a des parentés. C'est pas le seul chercheur qui, disons, qui vient des études du genre ou des études féministes ou des études queer qui compare un peu les deux situations. Vous allez voir pourquoi, en fait... Alexandre Barry s'intéresse à la temporalité, OK? Je vais définir d'abord c'est quoi la temporalité.
Mm-hmm, merci.
Une vie, là, c'est fait de temps qu'on trouve habituel. Hein? La temporalité traditionnelle, c'est genre, on vient au monde, on est socialisé à l'école, tout 60 ça.
60 secondes dans une minute, tout le monde est content.
C'est ça, puis, mais genre, on trouve un emploi, on a un enfant, on vieillit, on prend sa retraite, puis c'est ça. Mais ce que les queers, par exemple, les premiers, c'est eux qui utilisent en premier exemple. Les queers, c'était dans les années 90, c'était un mouvement qui a éclos alors qu'on était en pleine crise du VIH. Et donc, le terme queer était, à ce moment-là et avant, utilisé pour comme insulte. En fait, c'était toutes des personnes qui étaient, au fond, des minorités sexuelles.
C'était péjoratif.
Et c'était clairement péjoratif. Et qui étaient, en plus, accablées particulièrement, en tout cas, c'est ce qu'on montrait à l'époque, par le sida. Donc, ces gens-là se sont un peu révoltés en utilisant ce mot « queer », qui était une insulte, comme une manière de s'affirmer, le transformer en positif. Oui, 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 voilà. Et il existe une expression semblable pour les personnes en situation de handicap qui, on dit crip, crip, exactement.
Pour, oh, diminutif de crippled.
Précisément.
Oh.
Donc,
il y a quoi, crippled, je m'excuse.
Handicapé, en
anglais. Handicapé,
oui,
OK.
Précisément, mais c'est péjoratif. Et il y a un équivalent d'ailleurs au Québec, on utilise parfois capé. Vous avez entendu
ça?
Ah
oui, 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 oui. Mon Dieu, pas depuis 98, mais je te le dis.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a vraiment des parentés avec les queers. C'est-à-dire que c'est une insulte qu'on transforme mm-hmm. pour mieux s'affirmer, mm-hmm. pour se battre un peu. Mm-hmm. Et la temporalité, c'est ça que l'auteur nous dit, elle est différente aussi chez les creep. En fait, la temporalité chez les queers, par exemple, ces gens-là n'avaient pas d'enfants très souvent, avaient des situations particulières de vie qui faisaient qu'ils n'avaient pas l'emploi au même moment, mm-hmm. bon, tout ça.
La précarité. Là,
la précarité, tout mm-hmm. ça. Mais les trans aussi, là, j'ajoute un autre mot, les trans, les personnes qui changent de sexe, par exemple, c'est la même chose. Ils ont une période où ils doivent avoir une autre naissance,
et là,
ils
changent
de sexe, etc. Mais les personnes en situation de handicap aussi, le quotidien n'est pas fait du même temps. Se brosser les dents pour beaucoup de gens, par exemple, qui ont la paralysie cérébrale, ça prend pas le même
Absolument
temps.
Absolument pas.
Avoir des enfants, ça arrive de plus en plus, mais c'est quand même pas la norme. Parfois, c'est plus long de finir les études, difficile d'avoir un emploi. La retraite, oh, c'est compliqué. Donc, la temporalité, elle est différente chez les crip, chez les queers, et c'est ça l'appel, dans le fond, du mm-hmm. chercheur. C'est de dire, écoutez, entendons que cette temporalité-là est différente et respectons là, cette différence-là.
Et là, on parle de temporalité des trans et mm-hmm. une des temporalités, dis-je, c'est-à-dire un des marqueurs de temps dans leur vie,
oui.
disons-le comme ça, là, c'est la transition mm-hmm. de sexe,
oui.
entre autres. Et là, l'auteur dont tu nous parles, M. Barry, a parlé d'une voyons, ce mot-là ne me rentre pas dans la bouche. Temporalité de surexposition, leur transition étant exploitée par les médias. Ça, c'est oui. un phénomène qu'il a remarqué, qu'il a soulevé.
C'est ça, parce qu'en fait, sa démarche, lui, c'est de l'auto-ethnographie, OK? Il part beaucoup de lui-même. Il part d'abord des exemples de queers et de crip, mais arrive au trans, qui est une nouvelle forme de gens qu'on pointe du doigt, mais qui vit de la surexposition aussi. Et ce qu'il précise, Alexandre Barry, c'est qu'on insiste beaucoup collectivement dans les médias, quand on en parle, sur le moment où on change de sexe. Ça, mm-hmm. c'est un moment important quand la personne en parle, mais il reste que c'est comme si leur vie était stationnée là. Mmh. C'est comme si c'était le seul temps qui existait. Et de la même manière, je vais au-delà de la recherche, là, mais on fait la même chose avec les creeps. On insiste là, sur le fait qu'ils ont de la difficulté à prendre, par exemple, un truc. On insiste beaucoup sur leur incapacité. Là.
On est pathologisant, peut-être?
Oui, peut-être pathologisant. C'est pas c'est pas dans le vocabulaire des études queer, là, mais je dirais que c'est une
on
bonne manière
le
de comparaison.
Plus que, t'sais, non, mais...
Oui, on le regarde trop et il faudrait, et là c'est une prescription peut-être qu'on pourrait aller même référer à ce que l'auteur dit, ce qu'il propose c'est que plutôt que de surexploiter ce désir de surexposition transitoire, donc la transition, le changement de sexe, ça serait bien de déployer une temporalité, une éthique des temporalités sociales au-delà de ça. Et interroger aussi, peut-être différemment la question, parler de ce désir d'être visible, mais arrêter d'insister sur la transition.
Mais justement,
hein?
D'où est-ce
pas
qu'elle
sûr que
vient?
J'ai réussi à le dire comme du monde.
Non, mais c'est bien, dans le sens où ce qu'il nomme, c'est regardons autre chose que ce moment-là. Ces gens-là, ils ont oui. eu un avant, un après.
Moi, je vais vous résumer ça, moi.
Allez-y.
Et le chemin de Compostelle, c'est comme si on ne voyait que Compostelle, mais il y a le chemin.
Oui.
Moi, c'est comme ça que
et
je
résume.
Et
puis, on a un
ça.
Chemin qu'on aborde, qu'on marche de toutes sortes de manières.
Ben, absolument.
Absolument.
C'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait une définition de l'identité de ces personnes-là qu'en fonction de leur genre qui transite, on va se le dire comme mm-hmm. ça, alors que ces gens-là mm-hmm. ont des idéaux, des valeurs, mm-hmm. Des caractéristiques, des tempéraments, ouais, des ça. Envies, des désirs, mm-hmm. bref.
C'est mais, pas le même chemin que tout le
mais
monde.
Mais je vous compliquerai l'affaire juste une dernière fois.
It's game.
Mais il ne faut pas non plus être, comment je pourrais dire, très critique sur leurs besoins de visibilité. Parce qu'ils parlent aussi de cette période nécessaire pour ces groupes-là, dans le temps et même aujourd'hui, d'être surexposés parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont qui ont été comprimés, qui ont été cachés, qui ont été, j'oserais dire, cherche le mot, le refoulé.
C'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse. Si on n'en parle pas, on est une société taboue, répressive. Et si on en parle trop, on est des sensationnalistes voyeurs.
Ben, là, il ne faut pas l'exploiter, il faut donner la parole. Ce n'est pas la même chose. Ah. Parce que quand un queer dit qu'il est queer, quand un crip dit qu'il est crip, il prend la parole, il utilise ce qui était avant une insulte pour en faire quelque chose de positif, et ça lui appartient. Vous comprenez? Donc, éthiquement, je pense que comme médias, ce qu'on doit faire, c'est aller vers eux, leur donner la parole. Comme pour Slav. Oui, je suis en train de dire ça. Hey, j'ai envie de faire ça. Comme pour Slav, il y a plein de considérations dans ce débat-là, mais si on commençait par écouter les gens qui vivent vraiment la situation qu'on cherche à représenter ou à surexposer, ça serait peut-être une meilleure éthique qui nous conduirait.
Donc, morale de cette histoire, remettons entre les mains de ceux qui le vivent, leur propre réalité. Benoît Racette, merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Salut.
Merci beaucoup à Benoît Racette. Merci d'ailleurs aussi à tous ceux qui participent à cette émission-là, de près ou de loin. Ça permet, on l'espère, de vous proposer un contenu varié, diversifié et inclusif sur Canal M. Nous sommes en compagnie, vous êtes en compagnie aujourd'hui de Clotilde Seil et d'Emmanuel Robitaille. On se retrouve dans quelques minutes.
Vous écoutez M l'été.
Et en cette troisième et dernière partie, Emmanuel Robitaille et moi-même, Clotilde Seil, vont inviter Maxime Despomerleau et Hélène Gauthier à venir s'exprimer pour vous. La première avec une chronique culturelle, histoire de nous faire prendre l'air en des orages. Quoi de mieux que de se mettre des livres entre les oreilles? C'est ce que nous proposera Hélène Gauthier.
Is anybody gonna let me sing my French song right now? Ne me quitte pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà.
Feel me?
Oublier le temps, un malentendu et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas.
Don't leave me.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Listen to my guitar.
Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas,
don't leave me.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Listen to my guitar.
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas.
Don't leave me.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Listen to my guitar.
Turn to dirt and we return to the gods. Let's toast to our future. Ne me quitte pas, baby, I wanna believe ya. So make love to your night. Cello in your ear, girl, trying to set the mood right.
Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
C'était Wyclef Jean qui reprenait Brel avec la chanson « Ne me quitte pas », chanson très, très, très populaire de Brel. Et Wyclef Jean qui est aussi le plus populaire des artistes haïtiens. Et Maxime, oui. Parlons d'Haïti, tu nous amènes loin avec tes sorties.
En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est Haïti qui vient à Montréal.
Effectivement.
Salut Maxime.
Tu as raison.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien.
Oui, ben c'est ça. Alors, je vous parle du festival Haïti en folie qui commence demain, donc le 25 juillet, et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet. C'est un festival qui a été créé en 2007 par la Fondation Fabienne Colas et qui est aujourd'hui le plus important festival pluridisciplinaire en dehors d'Haïti, qui est entièrement dédié à la culture haïtienne et caribéenne. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, évidemment, musique, cinéma, théâtre, danse, gastronomie, littérature, etc. Et c'est le seul événement au Québec qui mélange tous les genres culturels d'Haïti. Alors, en 2016, la Fondation a aussi implanté le festival Haïti en folie dans la ville de New York. Alors, ça fait déjà deux éditions qui se passent là-bas. Et celle de Montréal, ben c'est ce week-end.
Super! Et là, on aura des conférences de Dany Laferrière qui sera
présent. Oui, entre autres, c'est ce que moi, je relevais comme étant vraiment le clou, si on veut, du festival. C'est vendredi, le 27 juillet, à la Grande Bibliothèque, donc la Bibliothèque nationale, conférence de Dany Laferrière à cœur ouvert et 30 livres plus tard. C'est 40 $ comme droit d'entrée et ça inclut un livre de l'auteur.
Ah oui.
Donc, il y a plusieurs livres qui seront présents. Donc, je pense qu'on peut choisir celui qu'on veut. Évidemment, il va être présent pour une séance de dédicace sur son dernier livre, Portrait de Paris avec chat, donc qui remporte un assez grand succès et sur sa particularité qu'il a écrit à la main vraiment et dessiné tout le livre. Donc, ça donne quelque chose comme 300 pages de livre pour une plus courte histoire. Alors ça, c'est vendredi. Mais sinon, à côté, il y a plusieurs festivités qui se déroulent, principalement autour du quartier latin, entre autres au Jardin Gamelin, donc à la place Émilie-Gamelin. Demain et jeudi, il y a des 5 à 7 Haïti en folie, alors avec des DJ qui sont présents. Il y a également jeudi Toto Larac and Band, qui est, d'après ce que j'ai compris, un peu le Michel Louvain des Caraïbes. Alors, il y a 50 ans de carrière derrière la cravate et il continue de séduire par son humilité. Moi, ça me parle. Je me dis, c'est un peu Michel Louvain. Et samedi,
c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Et samedi et dimanche, ça va se passer principalement au Parc La Fontaine. Donc, on se transfère, on s'en va au parc avec des ateliers de danse traditionnelle, de percussion et pour la première fois en cette 12e édition, une foire culinaire qui va mettre en vedette les traiteurs et restaurants de gastronomie haïtienne et caribéenne de Montréal. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir aller faire un peu de repérage sur nos prochaines dates de restaurants à Montréal. Et il va y avoir aussi des concerts en plein air chaque soir. Et il y a un défilé que je trouve qui a l'air super intéressant, le défilé Rara dans les rues de Montréal. Le départ est au Parc des Compagnons sur le plateau pour se rendre au Parc La Fontaine. L'Aurora, c'est un défilé carnavalesque symbolique qui est au son de la musique folklorique de cha-cha haïtien et c'est une musique qui est caractérisée par la prédominance de percussions du vaudou. Et le rara influence encore aujourd'hui beaucoup de groupes de musique, comme par exemple Arcade Fire, qui s'en est beaucoup inspiré dans son album Reflector, qui est sorti en 2013. Alors, c'est l'occasion vraiment de s'immerger dans cette culture-là. Alors, ça se passe tout le week-end, et c'est facile d'aller chercher de l'information à la fois sur les réseaux sociaux, mais sur le site haitienfolie.com. Et voilà, moi, c'est une occasion de s'immerger dans une nouvelle culture pour pas cher.
Effectivement, et non, mais c'est vrai, et de faire des découvertes, effectivement, et de rapporter cette culture-là pour la mettre à notre sauce, comme Arcade Fire l'a fait. Moi, j'aurais jamais douté qu'on aurait pu mélanger Arcade Fire avec le rara ou la musique haïtienne, ouais, encore moins le voodoo. Quelle belle nouvelle, Maxime. Et finalement, Québec Sim, ben pas finalement, parce que t'as plein d'autres affaires à nous dire, mais Québec Sim chante Starmania à Sherbrooke prochainement.
Ben oui, exactement. Sherbrooke est Monopolis pour cet été. C'est une exclusivité de la ville de Sherbrooke jusqu'au 18 juillet. Donc, c'est 40 ans après la création de l'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger. On peut réentendre ou découvrir pour les plus jeunes les chansons mythiques. Quelle est votre chanson préférée de Starmania à vous?
Moi, je pense que c'est Les uns contre les autres.
Ah, ben là, Fabienne
moi,
Thibault.
Ben oui, mais je suis restée, oui, mais ça fait partie de Starmania. Moi, je reste là-dessus. Ouais, quoique la serveuse automate aussi. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup.
Hein. Ce soir, on danse à Nazilande. C'est ça, la complainte de la serveuse automate. Le monde est stone. Moi, ma préférée, c'est le blues du businessman.
Effectivement.
C'est une pièce incroyable.
Ouais. On stand comme pour.
C'est la chanson québécoise. Ouais. Exactement. C'est un classique. C'est un classique. Alors, on pourra les voir sur scène, justement, au Centre culturel de Sherbrooke, à la place Nikitothèque, du mercredi au samedi, tous les soirs à 20h30. Et comme je l'ai dit, c'est une exclusivité de la ville de Sherbrooke. Et en même temps, on souligne les 25 ans de la Fondation Québecissime, dont Starmania a été le premier projet en production, produit par la troupe à plus petite échelle. Alors, tout est dans tout, comme on dit.
Effectivement. Et Québecissime était à Wendake samedi dernier. Donc, il se promène beaucoup actuellement. Et parle de Wendake, on parle Première Nation également avec toi, Maxime.
Oui, justement, ce matin, je fais un petit retour, bref, sur la conférence de presse de présence autochtone qui avait lieu ce matin à la Bibliothèque nationale. Le festival, je vais pouvoir parler plus en détail de certains événements à l'approche du festival qui se passe du 7 au 14 août. Mais je peux déjà vous dire que pour la 28e édition, il y a une forte présence du cinéma. C'est vraiment l'art qui revient tout au long de l'événement, une programmation très forte, des soirées de courts-métrages, par exemple le 7 août, plusieurs projections de longs-métrages, de fiction et de documentaires tout au long du festival à l'Université Concordia. Et c'est cette année sous, si on veut, le chapeau de l'harmonie entre les peuples. Donc oui, on regarde qu'est-ce qui se passe du côté des créateurs autochtones québécois et canadiens, mais également du reste du monde. Donc, on va chercher des œuvres de l'Australie ben des États-Unis, même de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. On pense au Pérou,
absolument,
à l'Équateur également. Donc, et du Brésil, de Tonga, un État de la Polynésie. Alors, on aborde l'histoire et les enjeux des communautés autochtones de partout. Des tables rondes autour du cinéma autochtone avec notamment Kim Obonsawin, qui est une réalisatrice très connue. C'est elle qui est à l'origine du dernier film « Ce silence qui tue ». Qui entoure le phénomène de la disparition et des meurtres des femmes autochtones. Donc, il y a eu un très gros succès, ce film, au dernier rendez-vous du cinéma québécois. Donc, elle sera présente pour faire une table ronde, une classe de maître. Et voilà, donc, il y a plusieurs productions du Wapikoni Mobile également, plusieurs partenaires qui seront présents. Mais donc, c'est le cinéma vraiment qui se dessine pour présence autochtone à venir au mois d'août.
Et le cinéma autochtone est un domaine extrêmement effervescent au Québec et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc ça doit être sans fin les découvertes qu'on va aller faire là. Beaucoup de belles choses qui se font ici par le peuple autochtone, vraiment à aller voir. Et finalement, parcours d'art public à Québec, Maxime?
Oui, c'est ça. Si on avait une petite minute, moi, c'est, je voulais mettre ça en valeur, Ex Muro, qui est un producteur, si on veut, d'œuvres d'art public. Il fonctionne par appel à projet. Il y a plusieurs artistes qui participent chaque année. Ça s'appelle Les Passages insolites. Alors, ça a lieu dehors, dans le Vieux-Québec. Alors, dans le Petit Champlain, dans le Vieux-Québec et autour de la Place Royale. Et c'est un parcours d'œuvres d'art. Donc, on tombe un peu là-dessus de manière impromptue, au détour d'un coin de rue. Et c'est 9 installations qu'on a, qui sont mises en valeur cette année. Et c'est la 5e année qu'ils font ce parcours. Et les œuvres des années passées circulent aussi également dans différents arrondissements de la ville, comme je vais vous décrire une œuvre qui s'appelle l'Odyssée Cooksasville, qui avait épaté lors de sa première année en 2014. C'est 3 gros pigeons de taille humaine qui observent avec curiosité, on peut dire, une boîte de conserve de soupe Campbell. Un clin d'œil au Popper et à Andy Warhol, et qui se demandent un peu comment ouvrir, comment avoir accès à la nourriture. Alors, vous pouvez comprendre qu'on est un peu décontenancé quand on tombe par hasard sur ce type d'œuvre-là. Alors, c'est ce qui met en valeur, et c'est un parcours qui est super intéressant. Et même si on ne connaît pas les rues, même si on ne connaît pas toutes les œuvres, on peut quand même en découvrir au fur et à mesure de nos balades dans Québec.
Bien, merci d'avoir piqué notre curiosité, Maxime. C'est réussi.
Bien, super, ça me fait plaisir.
Salut, Maxime.
À bientôt.
Oh, mon amour, venu d'un conte de fées, comme mon prince charmant, tu m'as sauvé. Sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi quand personne me voit, on ne me connaît pas comme toi. Chaque instant, je passe dans le brouillard. Je perds mon chemin et j'avance au hasard. Tes yeux sont mes yeux, sans toi, je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi, comme moi. Le corps,
psychose. Ils sont en train de se faire des signes par la vitre. Vas-y,
exactement.
C'est toi.
Je dis, non, Jean-Sébastien, tu te présentes la chanson. Elle me dit, non, toi, non, Clotilde, non, toi. Voilà, qui chantait, Jean-Sébastien?
Ça fait 4 minutes que vous aviez une discussion hors d'ordre. Je dis, j'ai pas besoin de leur donner d'informations.
C'est vrai, il y a quand même eu un long débat pendant la chanson, entre moi et Clotilde, sur la chanson française. C'est vrai.
C'était Stacy Kent qu'on vient d'entendre avec Mi Amor.
On n'écoutait pas partout.
Oh, ben ça nous arrive quand même, parce on prépare ce qui vient, comme par exemple d'accueillir Hélène Gauthier.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Hélène, qui, je vous le rappelle, si par hasard vous tombez sur l'émission pour une première fois, c'est dommage, vous en avez manqué beaucoup, mais le meilleur est encore à venir.
Il n'est jamais trop tard.
Il est jamais trop tard. Hélène Gauthier est bibliothécaire au SQLA. Pour ceux qui l'ignoreraient, on parle là du service québécois du livre adapté. C'est notamment au SQLA que nous enregistrons ici des livres en audio adaptés. Hélène, vous nous parlez donc de livres qu'on peut se mettre entre les oreilles.
Oui, effectivement. Tous des livres qui ont été, comme vous l'avez dit, tous des livres qui ont été enregistrés ici avec brio. Donc, le premier dont je vais...
Non, je t'ai plus.
Non, absolument, absolument, pour les rendre plaisants pour nos auditeurs, nos lecteurs. Donc, le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'intitule « Colette et les siennes » de Dominique Bonnat.
On va juste reculer un petit peu du micro. Voilà.
Donc, Colette et les siennes de Dominique Bonnat. Oui. Dominique Bonnat est académicienne, elle est française, une grande biographe. Donc, elle a écrit des biographies de Romain Gary, Gala Dali, Camille et Paul Claudel, Clara Malraux. Donc, vraiment, elle en a couvert. Donc, cette biographie, je crois que c'est pas romancé, c'est vraiment une pure biographie. Donc, ça se passe en août 1914, alors que les hommes désertent Paris pour la Première Guerre mondiale, évidemment. Donc, les femmes doivent s'organiser par elles-mêmes, elles doivent se serrer les coudes. Donc, l'écrivaine Colette a un petit chalet à l'orée du Bois de Boulogne. J'imagine que maintenant, il n'y a plus de chalet à l'orée du Bois de Boulogne, ça doit être un peu plus peuplé.
Ça s'est construit un petit peu.
C'est ce que je me disais. Donc, elle fait appel à 3 de ses amis les plus proches, qui vont aller rester avec elle dans ce chalet. Donc, ce sont des femmes qui appartiennent au monde de la littérature, du spectacle. Donc, on y retrouve, bon, comme j'ai dit, c'est des biographies. Donc, c'est toutes des femmes qui ont vraiment existé. Donc, Marguerite Moreno, qui est une comédienne, qui connaîtra tardivement la gloire au cinéma. Annie de Penne, qui peut être moins connue, qui était journaliste de guerre. Donc, quand même, à cette période, pour une femme, c'est assez remarquable. Et Musidora, la danseuse de cabaret, qui est une des actrices les plus célèbres des années 10. Donc, on parle de ces 4 femmes, on parle de leur vie, de leur conversation.
Et j'entends déjà le clash des conversations qu'il doit y avoir entre ces 4 femmes-là.
Effectivement. Donc, vraiment, c'est la vie intellectuelle et artistique des années 10, mais vraiment vue du point de vue des femmes. Donc, c'est très féministe.
Ce qui était très rare, ce qui était... je veux dire, on ne parlait pas des femmes à l'époque, de toute façon.
Non. Et donc, Dominique Bonnat en a profité, elle a pris ces sujets-là pour nous amener dans ce monde.
Très, très belle suggestion. Colette et les siennes de Dominique Bonnat, B-O-N-A.
Ensuite, j'ai décidé d'y aller avec un roman jeunesse, ce que je fais très peu souvent. Donc, La plus grande peur de ma vie, d'Éric Pessant, qui est aussi un auteur français. Donc, ça s'adresse ici plus aux 9-12 ans, donc les jeunes adolescents. Donc, c'est présenté comme un journal d'un personnage qui s'appelle David. Donc, ce jeune personnage, lui et 3 de ses amis se promènent un jour dans un manoir, parce que ça traîne comme ça, des manoirs abandonnés en France, et ils trouvent une grenade. Et ils la prennent, ils décident de la prendre. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne pas? Il y en a un qui le met dans son sac. Et ce jeune, Norbert, qui le met dans son sac, c'est un jeune qui se fait harceler à l'école. Et le lendemain, il y a un autre épisode d'harcèlement et il sort la grenade de sa poche, et de son sac, et il menace les jeunes qui l'entourent. Et donc là, on a le point de vue de David, son ami. Et ça commence vraiment avec cette action dans la cafétéria de l'école. Et c'est un auteur, Éric Pessant, qui est très bon pour le huis clos. Donc, tout se passe dans cette cafétéria et aussi dans le temps réel. Donc, le suspense de cette situation, comment on règle cette situation. Donc, un roman très intéressant pour les jeunes qui discutent de plusieurs sujets. Donc, des thèmes, l'amitié, évidemment, la tolérance, le harcèlement, le soutien des autres. Et c'est très, très, très tendu. C'en est presque comme un film.
Mais oui.
Donc, si vous avez un jeune qui cherche la lecture cet été, je recommande fortement.
Oui, un jeune. Et puis, moi, il me semble que ça m'intéresserait. Absolument.
C'est très actuel.
Écoute, quel scénario de film ça ferait?
Oui, absolument.
Ouh.
Donc, c'était la plus grande peur de ma vie, quand même, de sa jeune vie de 14, de 13, 14 ans, d'Éric Pessan.
P-E-S-S-A-N.
C'est ça. Ensuite, Les fantômes du vieux pays. C'est un roman américain de Nathan Hill. Donc là, celui-là, je vais vous avertir, c'est une brique. C'est un livre de 700 pages. C'est 28 heures d'écoute. C'est une saga. C'est donc Nathan Hill, il est dans la, je dirais, la mi-trentaine. Un jeune auteur américain. C'est son premier roman, mais il a travaillé pendant 10 ans.
Dessus?
Oui. Absolument, c'était son but, c'était sa grande réalisation, c'était ce roman. Et heureusement pour lui, lorsque ce roman a été publié, il a été acclamé.
Parce que dis donc, si ça ne fait pas un best-seller, ans, alors, oui, quelle horreur.
10 ans et 700 pages, on espère. Donc, le New York Times l'a qualifié de grand roman américain des deux dernières décennies. Donc, il va vraiment... C'est un roman qui est très ambitieux, mais qui n'est pas prétentieux, qui se lit très bien, qui mélange la comédie et la tragédie. Donc, je dirais que c'est plus les manquements du rêve américain. Donc, quand ça dérape un petit peu le rêve américain, ça se passe sur plus de 40 ans à travers le personnage de Samuel, qui est un jeune professeur de littérature, mais qui ne réussit pas très sa vie dans un petit collège. Il veut écrire, il ne réussit pas à écrire. Donc, il passe la majorité de son temps à jouer à des jeux vidéo. Et là, il y a un événement qui se passe aux nouvelles. Il y a un gouverneur qui est candidat à la présidentielle qui est agressé en public par une femme d'âge mûr. Et alors, Samuel se rend compte que c'est sa mère qui l'a abandonnée. Donc, il voit ça à la télé, ça fait des décennies qu'il n'a pas vu sa mère. Ah, ben voilà, ma mère a agressé ce gouverneur. Pourquoi? On ne le sait pas. Donc, c'est toutes des choses qu'on découvre dans le livre.
En tout cas, s'il n'y avait pas d'inspiration pour écrire, là, il y aurait une bonne histoire pour le faire.
Oui, oui. Donc, ça, c'est le personnage principal. Ouais, donc, son histoire. Donc, on couvre beaucoup parce qu'on traite à la fois de cette femme, qu'est-ce qui l'a amené là, et aussi de son fils Samuel.
Bien sûr.
Donc, elle était jeune femme à Chicago en 1968, donc les émeutes à Chicago en 68. On parle du 11 septembre. On passe aussi par la Norvège des années 40, parce que c'est de là que viennent ses parents. Donc, on en couvre beaucoup.
Mais 700 pages, j'imagine que on a de quoi se mettre cette belle histoire entre les oreilles. Hélène Gauthier, ça passe toujours trop vite,
trop vite,
pauvre
toujours,
chouette.
Oui.
Hein, mais vous allez nous garder l'idole de Louise Desjardins?
Absolument, je le garde précieusement pour la prochaine fois.
Ce sera le premier livre dont on parlera.
C'est sûr.
D'accord, merci beaucoup Hélène Gauthier.
Merci beaucoup.
Merci. Manu, il y avait quelque chose que tu souhaitais nous partager, des nouvelles que tu souhaitais nous partager.
Tout à fait, j'ai toujours beaucoup de nouvelles, mais pour aujourd'hui, la priorité, et c'est deux compagnies qui ont jonglé ou qui ont mis ensemble l'utile et l'agréable, pratique et le design. Tout d'abord, je vous parle de Leche Libre, une compagnie qui ont confectionné des vêtements, surtout des chandails, des robes, faits pour expressément pour rendre l'allaitement plus facile. Il combine style et utilité en ajoutant deux fermetures éclair en avant des gilets et des robes qui font super stylé, mais qui s'ouvrent pour permettre l'allaitement en tout lieu et facilement. Et je vous parle également de The Shoe That Grows. Ce sont des souliers qui peuvent s'agrandir jusqu'à 5 pointures différentes. C'est une initiative de l'œuvre de charité Because International, parce qu'on connaît le fardeau financier d'habiller des enfants quand ils grandissent. Même ici au Canada, pour une famille moyenne, c'est vraiment difficile. Imaginez dans les pays sous-développés. C'est à ceux-ci que s'adresse cette invention intelligente. Rendez-vous sur notre page Facebook canalemvusezvoix.com. Nous vous mettrons le lien pour voir ces produits-là, parce qu'une image vaut 1000 mots.
Oh, j'en ai une petite pour vous. Savez-vous que l'odeur du café suffit à stimuler le cerveau?
Mais oui.
Il y a eu des des études sur le sujet. Et effectivement, les chercheurs ont découvert que le parfum d'une bonne tasse de café pouvait améliorer les performances cognitives lors de l'accomplissement de certaines tâches. Eh bien, je vais me remettre au café, les enfants. Merci beaucoup, Emmanuel Robitaille. Merci, Jean-Sébastien Laliberté. Merci à nos recherchistes Anne-Laure et Catherine qui travaillent fort. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une belle journée.